dans ce domaine. Je voudrais juste faire réagir. En fait, Béatrice a proposé à des organisations de soutenir plus particulièrement une conférence, enfin une des thématiques qui parlait le plus. Et donc, la première partenaire de cette conférence, c'est une entreprise qui s'appelle Procédé Chenel. C'est bien ça? Est-ce que vous voulez nous dire quelques mots? Vous n'avez pas de micro. On peut apporter un micro ici? C'est possible? Ah, merci Cédric, c'est adorable. Moi, je ne peux pas vous le prêter, j'en ai un comme ça. Voilà.
Oui, alors
pourquoi
moi,
alors plus particulièrement ce...
Je m'appelle Sophie Chenel. La société que je dirige s'appelle Procédé Chenel. J'ai été partenaire parce qu'en fait, il suffit que Béatrice nous demande quelque chose, en fait, et on ne peut absolument rien lui refuser. Donc, moi, mon propos, c'est d'essayer aussi de limiter un peu notre impact sur cette planète. Du coup, on fait de l'architecture de papier, et je voulais, avec grand plaisir, soutenir et parrainer, en fait, vos initiatives qui sont particulièrement engagées. On ne vous a pas demandé de faire ça, c'est plus fort que vous. Et j'imagine qu'il faut beaucoup de...
Ténacité, oui.
Ouais, de ténacité. Chez Procédé Chenel, on a aussi des idées, des envies d'améliorer en fait nos services. Le service, c'est peut-être aussi de récupérer tout ce qu'on vous donne en tant que produit. Et ce service-là, il me semble qu'il est indispensable. Je note simplement en France, et peut-être aussi un petit peu ailleurs, qu'il est extrêmement difficile de s'appuyer sur un réseau industriel de recyclage qui n'existe quasiment pas. Et je me dis que peut-être que toutes ces bonnes intentions qui sont sincères, c'est aussi peut-être de se regrouper. Il y a des succès industriels de recyclage qui existent, mais ils sont assez difficiles à identifier. Et peut-être que on pourrait, justement, à l'occasion de ce congrès, qui est un congrès d'inspiration, hein, vous nous inspirez énormément, c'est peut-être aussi de trouver des clés pour se réunir et être plus forts ensemble au niveau industriel.
Voilà. D'accord, merci beaucoup. Merci. Alors, je vais peut-être faire une gaffe, mais ça, c'est ce que vous faites,
c'est... Oui, ça, c'est ce que je fais.
D'accord. Et c'est à quoi comme principe, alors? C'est que... Quoi, ben, c'est du papier, c'est quoi, en fait?
C'est extrêmement léger, ouais. c'est fait dans des prisons, donc il n'y a pas d'externalisation en Asie, ça donne du travail aux prisonniers, ça ne brûle pas. Ça se replie, ça se remmène. Voilà, ça permet aussi à une femme toute seule de voyager dans le monde entier et de faire des stands sans avoir besoin en fait de trop porter, d'accord, de trop se faire taxer aussi par des systèmes d'exposition. Et à la fin, on ne sait pas le recycler. Donc moi, je le dis, je ne sais pas le recycler aujourd'hui.
Appel donc, à contribution, ouais, pour essayer de le recycler, mais bravo. Et puis ça fait un lien très fort avec la prochaine table ronde, puis on va parler plutôt d'impact social. Et vous êtes en plein dedans à travers votre activité. Donc merci beaucoup. Merci aux trois intervenants pour ces séquences inspirationnelles. Et effectivement, je crois qu'ils ont, communiqué beaucoup de la joie qu'ils ont à faire ce qu'ils font. Mais effectivement, tout ça demande aussi beaucoup de capacité de résilience, de ténacité. Et donc, félicitations de faire avancer les choses et de le faire avec... il me semble, énormément de talent, d'ambition et de nous inspirer. On va passer à la deuxième table ronde. On va faire l'aller-retour toute la journée entre des personnes qui viennent d'un autre monde et puis des personnes qui sont plus de votre environnement direct, c'est-à-dire celui de l'événementiel. Et pour cette table ronde, on va parler de la façon dont les concepteurs d'événements, dont les organisations d'événements, certains, de plus en plus, j'ai l'impression, essayent de favoriser l'impact social, soit par l'événement qu'ils créent, soit par la façon, la manière dont ils l'organisent, les personnes avec qui ils travaillent. Et alors pour ça, je vais appeler Lord Revillon, qui est où? Voilà, qui a créé One Heart. Isabelle Giordano. Et Stanislas Souroun. Je ne sais pas comment on prononce, je suis désolé. C'est bien à peu près, oui. Voilà. Et avant de vous laisser la parole et présenter ce que vous faites, on se connaît un peu, j'appelle Bertrand Billard, qui est ici, et qui va introduire, en nous expliquant pourquoi il est à ses yeux fondamental que les métiers de l'événementiel commencent ou continuent à travailler sur cet impact social. C'est à peu près ça ou tu ne veux pas dire ça?
Je ne savais pas jusqu'à il y a deux minutes, mais maintenant je sais. Merci en tout cas. C'est pas juste une blague de dire ça, c'est que quand j'ai eu Béatrice hier soir, alors comme tout le monde, je ne peux pas lui refuser quoi que ce soit quand elle me demande, donc naturellement on s'est senti concerné par les sujets de la journée et on est venu au titre de l'événement. L'événement, c'est une association de 65, 70, 75 agences, je ne sais plus très bien aujourd'hui. C'est 80% du marché de la communication événementielle traité par les agences et c'est aussi 70 partenaires, prestataires, donc toute la chaîne de métiers et de valeurs qui sont derrière ces agences pour concevoir, produire, activer de beaux dispositifs événementiels. Et donc, être partenaire de cette séquence, ça nous semblait intéressant, naturel et fondamental. Mais quand Béatrice hier soir m'a dit « Donc tu prendras la parole pour ouvrir une séquence juste avant des gens qui vont vous raconter des récits événementiels formidables », je me suis dit « C'est super, mais être le type qui vient au titre de l'association constater, donner des leçons, ça n'est pas très intéressant ». Donc je me suis dit, la partie commune RSE pour l'association, je ne sais pas très bien ce que je vais leur raconter, en tout cas parce que je parle plus de 15 secondes là-dessus. Après, je me suis dit, à titre personnel, au titre de ma boîte, j'aurai certainement des récits événementiels concernant l'apprentissage, un certain nombre d'engagements que j'essaye de monter avec mes associés tous les jours, mais ce n'est pas non plus l'objet. Et donc je me suis dit, si je viens, et c'est ce matin que j'ai eu la réponse, quand Béatrice a dit, si on est invité, c'est pour parler au titre de ses convictions propres. Alors, il s'avère que j'en ai quelques-unes, et donc du coup, c'est la partie du milieu. Ce n'est pas commune RSE, ce n'est pas le récit événementiel, c'est le why que je vous propose de partager en quelques minutes avec vous. Le why, c'est ce qui fait que moi, aujourd'hui, tous les matins, je ne me rase plus, donc j'ai pu me poser une question de projection à terme, mais tous les matins, quand je me lève, j'ai une absolue conviction. C'est que j'ai décidé il y a 18 ans maintenant de changer de vie, de quitter un gros annonceur qui avait des tas de démarches, des tas d'engagements. Je faisais de la communication aussi, mais pour prendre les rênes d'une petite boîte, d'essayer de la développer sur des projets qui me motivent. Et ces projets qui me motivent et qui motivent mes associés et nos collaborateurs, c'est d'être absolument convaincu que tous les jours, on peut changer le monde quand on fait ce métier-là. Et c'est formidable de se dire qu'on peut tous les jours changer le monde, parce qu'on peut changer le monde ou aspirer à ça ou contribuer à ça avec une vision un petit peu de long terme. On peut tous les jours activer des choses et faire des solutions sans trop réfléchir. Nous, ce qu'on veut, c'est tous les jours changer un peu le monde. Et ça, c'est quelque chose qui est formidable et qui nécessite juste de se poser les questions de pourquoi est-ce qu'on est là, tous, quel que soit notre écosystème, alors professionnel de l'événement ou pas, je m'en fous un peu, c'est tous les gens qui pensent qu'on peut faire des choses ensemble. Et les gens qui pensent qu'on peut faire des choses ensemble, ils se posent juste la question de savoir pourquoi. Et quand on est aujourd'hui dans ce métier de l'événementiel, tous les jours, on pense et on agit. On conçoit et on produit. On crée et on active. C'est ça notre fondamental. C'est ça nos métiers. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça que moi, je suis motivé. Alors, sur cet enjeu social, c'est vrai que l'enjeu sociétal et social, il est fondamental pour nous. Toute la partie d'éco-responsabilité qui est traitée aussi en filigrane tout au long de cette journée-là, je suis toujours moins à l'aise. Je sais qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont faites. Il y a beaucoup de choses qui sont engagées. On y travaille au titre des filières, des entreprises, des relations avec les annonceurs. Et c'est compliqué. C'est vrai qu'à un moment donné, ne pas enfouir de la moquette, oui, c'est un engagement facile à prendre. Donc celui-là, je veux bien le signer. Et les traiteurs, en même temps, j'engage une chaîne de valeur qui est derrière nous, parce que c'est aujourd'hui les prestataires qui travaillent avec nous, ils font ce boulot-là et ils nous permettent à nous, agences, de nous dédouaner beaucoup de cette responsabilité. Donc c'est facile pour moi de dire on s'engage, puisqu'en fait, on engage des gens à s'engager pour nous. Donc c'est bien sûr qu'on le fait et qu'on va le faire encore plus. Mais ce qui m'importe plus, c'est l'humain. Parce que si on fait tout ce métier-là, c'est pour que des gens parlent à des gens, que des gens travaillent avec des gens et que des gens avec des gens construisent des choses qui rendront cette société tous les jours un peu plus meilleure, un peu plus favorisable pour tout le monde. Et ça, aujourd'hui, ça, on le fait à travers trois niveaux d'appel et d'engagement. Donc l'objet de mon message aujourd'hui, c'est plutôt que de vous donner le son ou de vous raconter ma vie, c'est de vous amener à accepter de nous aider sur des engagements forts. Le premier engagement fort, c'est dans notre écosystème. Ce sont des gens qui travaillent, ce ne sont pas des machines qui aujourd'hui produisent de la communication événementielle, ce sont des gens. Et ces gens-là, ils viennent d'univers très différents. On a des metteurs en scène, des concepteurs-rédacteurs, des électriciens, des menuisiers, que sais-je, toute une palette de métiers, de compétences, des cuisiniers, plein de gens qui font plein de métiers. Et pour ça, il faut les former. Et nous, on a décidé, au titre de cette filière, de les former réellement en créant une école. On a pris un risque, on a créé une école. Il y a le directeur de l'école, qui s'appelle Hubert Dupuis, qui est au premier rang. Il y a pas mal d'élèves de cette école qui sont là. C'est facile, elle s'appelle l'école sans apostrophe, donc c'est l'école tout attaché, .school pour ceux qui voient le site web. Cette école, elle forme aujourd'hui des futurs chefs de projet événementiels dans tous les domaines, et elle formera demain d'autres métiers événementiels, donc des gens qui sont capables de penser événementiel. Pas que des acteurs qui seront des stratèges de communication et qui pourront activer n'importe quoi, non. Des gens qui pensent relations humaines, qui pensent activation et utilité sociale et sociétale des dispositifs qu'ils imagineront. Donc ça, c'est un vrai engagement de filière. On est une petite association, mais on crée notre école. Dans le même temps, on crée et on continue à activer l'Institut de l'événement, qui est un centre de formation professionnelle, parce qu'il ne s'agit pas d'avoir des jeunes formés à l'instant T et puis qu'on oublie derrière. Donc on s'engage aussi tous les jours, et toutes ces boîtes s'engagent pour accompagner la croissance de nos collaborateurs et ceux de nos clients au quotidien. Donc ça, c'est le premier volet, c'est ce métier qu'on doit accompagner, développer pour créer des cerveaux événementiels et des bras événementiels, et pas juste des bons élèves qui trouveront un job. Le deuxième volet qui est important, c'est ce pourquoi on fait ça pour nos clients, c'est-à-dire que tous les jours, on rassemble des gens, on les met ensemble, et on a fait évoluer ce métier-là considérablement, et on travaille avec nos clients tous les jours pour que de moins en moins soit une communication descendante mise en scène. On vous met des artistes, des machins, des jongleurs, des musiciens, des belles vidéos, pour que le message de la direction générale passe. C'est mort, ça. C'est mort. Alors, ça fait longtemps qu'on le dit, mais c'est mort, et c'est mort en grande partie parce qu'on décide, et qu'on continuera à décider de le faire. C'est qu'aujourd'hui, cette démocratie, elle s'inverse. Les gens veulent pouvoir contribuer. Quelquefois prendre le pouvoir, c'est pas toujours très heureux parce qu'il faut pouvoir accompagner un peuple à prendre le pouvoir, mais là je déplace le cadre de mon discours du jour, mais il faut être capable de pouvoir aider les gens à contribuer à ces nouvelles formes de démocratie dans l'entreprise ou dans la société, peu importe, c'est la même chose. C'est les mêmes expériences d'ailleurs qu'on tire de l'un vers l'autre. Donc aujourd'hui, les collaborateurs d'une entreprise, ils veulent comprendre une vision. Donc ça veut dire qu'il faut que les patrons aient une vision. Et ça, c'est pas toujours le cas. Une vision, c'est pas un projet d'entreprise à 3 ans. Une vision, c'est à quoi sert mon groupe dans les années qui viennent. Quand j'entends Bouygues parler tout à l'heure, c'est vachement intéressant de se dire, à aujourd'hui, quand je suis le groupe Bouygues, certes, j'ai une responsabilité opérationnelle de moins enfouir de déchets, d'utiliser des matériaux plus nobles, peu importe, mais j'ai aussi une fonctionnalité qui va au-delà simplement de construire des bâtiments. J'ai une fonction d'utilité sociale à plus long terme. Donc ça, c'est notre job. Être capable de pouvoir aider ses patrons à définir ces visions-là, être capable de les faire en sorte qu'ils le partagent avec tous leurs niveaux de management, les management intermédiaires et les salariés dans l'entreprise. Et ça, ça fait partie de la deuxième grande mission qu'on veut faire. Et j'ai besoin de votre aide aussi, parce qu'il faut qu'on arrête d'opposer agences, clients et de se battre sur des chiffres et sur des coûts. Soyons capables de pouvoir directement parler plus de solutions, d'engagement de l'ensemble de cet écosystème. Et le troisième volet, j'en finirai par là, parce que j'ai largement explosé mon timing.
Oui, un peu. Oui,
ouais, mais c'est pas grave.
Je le savais, donc je ne suis pas étonné.
C'est une habitude. C'est que tout ça, ça sert à quoi ? C'est que prendre ces exemples d'entreprises qui sont notre métier au quotidien, ils doivent pouvoir contribuer à être facilement reproductibles dans la société civile. Aujourd'hui, on s'aperçoit quoi ? On s'aperçoit qu'il y a des gilets, alors qu'ils soient jaunes ou verts, peu m'importe, mais des gens qui, en gros, ne comprennent pas, ne sont pas d'accord et s'opposent. Et s'opposent avec quelquefois des propositions, mais quelquefois des propositions disparates, difficilement traitables, puis à côté de ça, une institution qui décide d'accepter, de pas accepter, de concerter, de pas concerter, mais tout ça est un peu confus, quelquefois violent, et en tout cas dangereux, et sans aucun intérêt pour une construction d'un navire commun. Et ça, aujourd'hui, on a une expérience folle, nous, agences ou professionnels de l'événement, c'est que tous les jours, on s'est confronté à ça dans les entreprises. C'est qu'on a tous vu, à un moment donné, un patron qui avait un problème de vision et qui parlait de projet d'entreprise. Qu'on a tous vu, à un moment donné, une entreprise qui a perdu son management intermédiaire, ses corps intermédiaires dont on parle, dont il a pensé qu'ils n'étaient pas très utiles, je parle directement aux salariés. Et on a tous vu, à un moment donné, que ça foutait le bordel quand un chef de service n'existe plus dans la considération de son patron, parce que les salariés derrière sont en errances. On a tous vu des drames sociaux dans ces entreprises parce qu'à un moment donné, on arrêtait de réunir des gens et de les rassembler. Donc tous ces exemples-là, ils se rapprochent pour me dire que c'est vraiment le moment de finir. Donc je vais le faire. Et donc cet exemple-là, il doit permettre à un moment donné, c'est mon troisième appel à l'engagement, c'est aidez-nous, aidons-nous à faire en sorte que dans les médias, dans les grands débats en ce moment, on nous demande juste de pouvoir contribuer, qu'on nous permette juste de contribuer et qu'on arrête de voir juste des publicitaires qui viennent donner des leçons d'analyse politique, alors qu'on pourrait juste mettre les gens que vous êtes autour de ces débats-là pour essayer d'apporter notre connaissance, nos savoirs, notre expérience et notre enthousiasme pour faire ce fameux monde meilleur. Merci à tous.
Merci, bravo. Merci. Merci pour notre enthousiasme. On va commencer avec la première intervenante, Laure Grevillon, qui a annoncé One Earth. Peut-être que pour présenter ton métier, tu essaies de rapprocher des mondes qui ne se côtoient pas forcément. Est-ce que c'est une façon de lancer ce que tu fais qui te convient d'une certaine façon ?
D'une certaine façon. Mais comme on va parler d'impact, je vais parler d'impact. Alors, ouais. Merci de votre écoute et merci, pardon, Béatrice de m'avoir invitée. Alors, One Art, c'est avant tout, on est vachement away. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'on met avant tout l'impact dans notre moteur du quotidien. Alors, qu'est-ce que l'impact pour One Art ? C'est simple. Je pense que nous, notre vision, c'est que chacun d'entre nous, vous, moi, toi, peuvent avoir un impact pérenne sur notre planète. Et le problème, c'est comment faire ? Julien nous a parlé un peu des petits gestes au quotidien. Marie nous a parlé de la mobilisation en fait, des partis politiques. Mais comment faire, nous, à notre échelle, avec notre moyen, notre temps, qui est un peu réduit en peau de chagrin? Et ben, en fait, l'adage de Wallart, c'est tout ce qui n'est pas su n'est pas vu, en fait, tout simplement. Donc comment faire? Ben, on a créé un média qui s'appelle wallart.fr, qui est assez influent dans les réseaux sociaux. On a parlé de Greta Gutenberg. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo de cette petite fille haute comme trois pommes. Voilà, on l'a lancée en fait en poseur d'alerte sur notre média et on a eu à peu près 15 millions de vues, ce qui est assez considérable. Et en fait, on s'est aperçu qu'à force de parler des solutions du quotidien, eh ben, il fallait s'orienter vers les acteurs du changement qui n'ont pas forcément les moyens de s'exprimer ou qui n'ont pas les capacités de communication pour atteindre leur public. Donc plutôt de vous parler de mon métier, je vais vous parler de deux actions que Wallart a contribué. C'est SOS Méditerranée. Est-ce que quelqu'un connaît SOS Méditerranée dans cette salle? Voilà. L'Aquarius, voilà. Alors c'est une histoire qui est un peu incroyable, c'est qu'ils nous ont appelés le 25 décembre 2016. Ils venaient de faire une petite levée de fonds sur une plateforme de crowdfunding, 200 000 euros. Ils ont dit, ben voilà, alors, on lance l'Aquarius en février à Marseille et l'objectif, c'est de collecter à peu près 100 000 euros par jour pour sauver des vies. Et on n'a pas du tout les moyens, ni la communication, ni les réseaux pour arriver à cet objectif de collecte de dons. Et pour avoir un impact, l'impact, c'est sauver des vies humaines tous les jours en Méditerranée. Du coup, en fait, on a récupéré toute la stratégie digitale. On a commencé à créer un open boat. Je vous en parle parce que vous êtes dans l'événementiel. Donc l'objectif de cet open boat, c'était montrer aux journalistes et aux Marseillais, en fait, qu'est-ce qu'un bateau qui va pouvoir sauver des vies. Et on a bâti toute cette stratégie de collecte de dons uniquement par le digital, parce que lancer une ONG en toute urgence, il y a un seul moyen pour qu'elle puisse émerger, c'est via le digital. Aujourd'hui, l'Aquarius, si vous voulez, c'est le bateau de référence, on a tous entendu parler dans les médias, des sauvetages en mer Méditerranée, des vies humaines. Nous, on s'est vraiment positionné sur sauver des vies humaines. On ne veut pas se positionner sur avant et après. L'objectif, c'est qui on est aujourd'hui, en fait, pour ne laisser noyer des familles entières en mer Méditerranée. Le deuxième impact qu'on a pu contribuer, entre autres, qui est assez révélateur, c'est le SAMU Social de Paris. SAMU Social de Paris, vous le connaissez tous, j'imagine. On ne sait pas trop ce qu'ils font entre l'hébergement, les maraudes, etc. Et ils sont venus nous voir et dit, bah voilà, nous, on n'arrive pas à collecter, alors qu'on est super connus, on n'arrive pas à collecter des dons, on n'arrive pas à avoir un impact social pérenne qui émerge en fait, dans les médias. Et du coup, on a anglé sur une stratégie qui était sur les femmes dans la rue. Donc, c'était l'année dernière, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette campagne, qui s'appelle La rue avec elle. On a fait une poseur d'alerte média sur les problématiques des femmes dans la rue, qui sont aussi bien en danger dans la rue que dans les centres d'hébergement, ce qui paraît un peu incroyable, ne serait-ce que dans le ramassage des bus, en fait. Donc on a un petit peu été aidés, parce qu'avec l'affaire Weinstein, en fait, on a pu voir le problématique du harcèlement auprès des femmes. Et aujourd'hui, en fait, il y a une halte aux femmes qui est hébergée à l'hôtel de ville de Paris. On a pu distribuer des kits d'hygiène pour ces femmes. Et vraiment, les médias se sont emparés du sujet en fait, des femmes. Donc nous, notre impact chez Wallart, c'est absolument de vous convaincre à vous qu'on peut être un acteur du changement à notre quotidien et surtout d'accompagner ces acteurs du changement à mieux communiquer, à mieux vous toucher pour créer vraiment des opérations à impact sur le terrain. Et je profite de cette ouverture de conclusion, ça tombe bien, c'est qu'au quotidien, comme on vient du digital, on se rend compte d'une vraie réalité. Peut-être que vous ne vous rendez pas compte parce que vous êtes vraiment dans l'événementiel et dans la communication et la publicité. C'est que ces acteurs du changement, en fait, il y a une véritable fracture du digital. Et c'est ça, en fait, notre leitmotiv, c'est comment les amener, en fait, à utiliser le digital pour leur fin d'action. Et ça, c'est une véritable problématique sur laquelle j'aimerais vraiment débattre avec vous un jour. Cette fracture digitale, elle existe au niveau des associations. Elle existe aussi au niveau des collectivités territoriales. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de mairies qui viennent nous voir, notamment après l'aspect des gilets jaunes, en disant, ben voilà, nous, on ne comprend pas. Il y a des jeunes qui postent des trucs sur les réseaux sociaux dans tous les sens. On ne sait même pas comment ça marche. Et on s'est un peu dépassé, notamment pour les prochaines élections municipales qui auront lieu en 2020. Donc voilà, en fait, notre impact pour nous est sur le terrain, mais il commence dans notre ADN digital, parce qu'on est tous un média. Et grâce à ça, on peut contribuer au changement de notre planète.
Merci, merci beaucoup pour... Donc ce que tu fais, c'est que tu relies les entreprises, les ONG, les citoyens, et tu essayes de faire que tout ça résonne et fasse grandir un impact, en fait.
C'est exactement ça, le way, c'est qu'on touche tous les publics, et on essaye aussi de faire grandir les acteurs du changement qui ont vraiment besoin d'être accompagnés.
Voilà. Et est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, il y a une... il y a que ce lien entre ONG, entreprise, éventuellement citoyen, ça il était peut-être fait depuis plus longtemps, a un sens, il progresse, il favorise cet impact. Alors, parce qu'il a été attaqué aussi, on peut parler de social washing.
Alors de green washing, de social washing, bien évidemment, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a autant d'entrepreneurs sociaux que d'intrapreneurs sociaux, et je pense que ça, c'est véritablement la nouvelle perspective des entreprises, c'est que les intrapreneurs sociaux, c'est-à-dire c'est des personnes qui sont dans les grandes entreprises et qui vont avoir un ADN social par rapport à l'activité économique de l'entreprise. Je crois qu'on va au-delà du social washing. De toute façon, on n'a plus le choix. Enfin, Marie Toussaint nous a exprimé ça tout à l'heure. Si chacun d'entre nous ne contribue pas en fait, au bien-être de la planète, c'est la planète qui va périr. Donc je crois qu'aujourd'hui, les entreprises n'ont plus le choix de tendre vers ça, d'avoir un impact social, économique.
Merci beaucoup.
Merci.
Marie. Alors Isabelle, toi tu diriges Unifrance depuis plusieurs années. On pourrait croire que... Alors ton métier, si je peux le résumer, c'est de faire rayonner le cinéma français à travers le monde. Et on pourrait peut-être presque opposer, je suis un peu caricatural, la question sociale ou sociétale et le cinéma. On pourrait opposer les paillettes, les stars, et puis faire attention ou prendre soin de la société. Bah, il se trouve que toi, tu as envie de faire converger les deux. Et donc bravo. Et puis, qu'est-ce que tu vas faire exactement? Parce que je crois que tu en as. Enfin, c'est une annonce que tu nous fais. C'est un nouvel cycle que tu lances, c'est ça?
Une annonce, le mot est fort. Bonjour à tous, bonjour tout le monde. Mais en tout cas, effectivement, je suis porteuse d'un message que j'espère aussi inspirant, aussi stimulant que tous les intervenants que j'ai entendus depuis que je suis arrivée. C'est vrai que c'est très agréable d'entendre des gens qui nous disent « Oui, c'est vrai, chacun dans notre domaine, on peut changer le monde. » Et c'est vrai que ma petite pierre à l'édifice, c'est de parler du monde de la culture, parce que je pense que les artistes sont ceux qui sont également des producteurs d'impact. Il n'y a rien de plus fort qu'une image, un tableau, un film, un documentaire, une petite image qu'on voit sur YouTube quand on est sur son téléphone portable dans le métro. L'image parle à la fois au cerveau et au cœur et permet de faire changer les mentalités et de faire changer fondamentalement les préjugés. Et ça permet également d'agir. Donc c'est ça que je me base vraiment sur la force de l'image pour continuer bien sûr dans mon métier à Unifrance de faire rayonner le cinéma français partout dans le monde, parce que le cinéma français il est certes vu avec toutes ses paillettes, son glamour, etc. Mais comme je l'ai déjà expliqué, il peut y avoir un lien entre Isabelle Huppert et le développement durable. Oui, il n'est pas évident à trouver, mais le lien c'est justement que nous sommes en France des producteurs de films à impact social. On l'ignore peut-être, mais sachez que les Anglo-Saxons, très récemment, c'était dans un festival de documentaires qui s'appelle le FIPA, il y a quelques semaines, ont parlé justement de ces productions à impact, ces documentaires qui sont très forts, et ils reconnaissent en France un savoir-faire français dans cette manière de raconter des histoires, alors que ce soit des documentaires sur l'environnement, etc. Vous connaissez bien sûr Demain, les documentaires de Yann Arthus-Bertrand, mais la fiction aussi s'empare de certains sujets. Et c'est vrai que régulièrement, quand on parle d'Intouchables, qui a quand même été vu par 30 millions de personnes à l'étranger, en dehors de France, 20 millions en France, 30 millions à l'étranger, donc c'est 50 millions de personnes qui, tout d'un coup, ont eu un regard un peu différent sur le handicap ou sur, effectivement, les différences de peau ou de classe sociale. Il y a d'autres films qui se produisent et il y a surtout de nouveaux acteurs de changement. Et c'est un petit peu ça, peut-être, c'est pas une annonce, mais en tout cas, c'est une information que je divulgue parce que je pense que toutes les personnes qui sont dans cette salle doivent prendre en compte la capacité que les artistes peuvent avoir à être des porteurs de messages. Ce sont des médias en eux-mêmes, ils sont médiateurs. Et c'est vrai qu'ils peuvent aussi vous aider. N'hésitez pas à inviter des artistes. Je pense qu'on a toujours besoin du monde de la culture dans nos événements. Et c'est aussi une belle manière de faire passer des messages. Donc la nouveauté, c'est effectivement que de plus en plus, dans les grands festivals, on parle de production impact. Je parlais du FIPA donc récemment. Il y a de plus en plus d'artistes qui sont sensibilisés, parce que ce sont aussi des citoyens. Donc j'ai parlé de Mélanie Laurent et des Nakash Toledano. Eh bien, sachez qu'ils continuent leur chemin, mais il y en a d'autres aussi. Il y a de plus en plus de gens, vous avez peut-être vu sur le chemin de l'école, des réalisateurs qui font ce genre de film, voilà, où on décrit des enfants partout dans le monde, des enfants qui sont aussi parfois acteurs de changement. Donc sachez qu'il y a de plus en plus de productions elles vont exister sur vos écrans et dans les festivals. Le prochain film d'Ella Cache-Toledano parlera de l'autisme, avec un ton de comédie, c'est ça qui est fort aussi. C'est l'idée aussi de faire passer des messages forts pour qu'on puisse être dans un, voilà, plus de bienveillance et de tolérance, etc. Mais je pense que l'humour est aussi très important pour faire passer ces messages. Et puis partout dans le monde, c'est vrai que dans les grands festivals, je remarque un changement. Là, j'étais au Festival de Berlin. On a signé la charte 50-50, l'égalité femmes-hommes. Ça s'est passé également à la Mostra de Venise, au Festival de Toronto et bien sûr au Festival de Cannes. Donc sachez que les choses progressent également dans le monde de la culture. Et je suis persuadée que les artistes ont aussi un rôle à jouer et ne doivent certainement pas rester dans leur cage dorée parce qu'ils sont effectivement porteurs de messages très très forts quand on les voit aux Oscars, etc. Je pense qu'on continuera d'entendre parler de ces messages à impact fort. Mmh. À Unifrance, on monte un groupe de travail justement avec quelques personnes du monde du cinéma qui ont envie que les choses bougent. Il y a un fonds d'investissement qui vient de se créer pour que justement, en amont, c'est bien beau de faire des films, mais c'est encore mieux quand ces films sont porteurs de belles valeurs. Donc il y a un fonds d'investissement qui s'appelle Impact, qui porte bien son nom, et qui fait désormais du placement de valeurs comme d'autres font du placement de produits. Voilà, donc on place des valeurs, on place de la diversité, on place de la tolérance, etc.
Ça veut dire quoi concrètement, en fait,
de placer exemple, des valeurs quand quelqu'un décide de faire un film où il y a un homme, une femme, une caissière, une chef d'entreprise, on lui suggère, surtout s'il veut avoir des financements, de mettre une femme plutôt d'origine africaine dans le rôle de la chef d'entreprise. Ça change le regard ensuite. Si on veut faire parler justement d'un sujet qui nous est cher concernant l'environnement ou la gestion des déchets, on décide de le mettre d'une certaine manière dans le scénario. C'est vraiment au début, dans la recherche des financements, on essaye de mettre de l'impact social et environnemental déjà dans les films. Et l'idée, c'est que ça passe de manière quasi invisible. Mais en même temps, c'est ce qui va toucher les esprits. Je terminerai juste avec une petite anecdote. J'ai l'habitude de montrer des films à des jeunes gens. Des jeunes gens qui, en général, ne vont jamais au cinéma. Et j'adore montrer Billy Elliot parce que je fais toujours la même expérience. Je suis face à 300 jeunes. Quand je leur dis « un garçon qui fait de la danse », ça vous évoque quoi ? Tout le monde effectivement hurle en disant c'est ridicule, c'est nul et tout le monde se moque. Après avoir vu Billy Elliot, je peux vous assurer que les 300 jeunes ont changé d'avis.
Envie de faire de la danse, ouais.
Donc comment est-ce qu'on arrive à lutter contre les préjugés, les discriminations ? Comment est-ce qu'on arrive à changer les mentalités grâce au pouvoir de l'image et grâce au storytelling ? Il y a une personne que je pense unanimement on apprécie, c'est Barack Obama. Qu'a-t-il fait depuis qu'il est plus président, il a décidé de s'engager dans le storytelling et d'être un créateur d'histoire. Voilà, je pense que c'est un tout petit message que je voulais faire passer pour vous parler un tout petit peu de la culture qui est ma passion. Et la culture, ça change le monde, bien sûr.
Merci beaucoup.